L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, nous retrouvons notre World Tour. Nous irons en Estonie avec Virginie Kirotem et notre invité. Puis juste après, la rédaction de 01net.com, comme chaque samedi après-midi. Jean de Chambure. Attention, il est temps de retrouver notre passion selon Sanet. Et on va parler de tous ces mots qui pullulent sur le web et qui nous font mal. Oui. Cybersquatting, phishing, etc.
Toutes ces horreurs. Alors là, il s'agit de passions, bien entendu.
Ah oui,
négatives.
Passions, oui.
Obscures.
Ah, complètement.
Qui viennent polluer notre cher Internet.
Oui.
On pensait que ça allait un jour s'arrêter, peut-être, hein, ces histoires de phishing, ces histoires de cybersquatting. Eh bien, non, ça continue.
Ça continue.
Ça pullule, ça se développe, y compris sur les applications mobiles. Bref, c'est toujours là.
Je sens que vous avez été un peu victime de tout ça, non, Jean? Pas encore.
Bah écoutez,
Un petit peu.
Le cybersquatting, je le suis de près, et le phishing, l'hameçonnage, hein, le fait de pouvoir récupérer des adresses ou des mots de passe aux dépens d'un internaute, je le suis de très près, parce que évidemment, ça peut nous concerner.
Et bien sûr.
Voilà.
On a forcément un proche qui s'est fait avoir.
Ouais.
Je pense au moins une fois par le hameçonnage. Hein.
Ouais. Alors deux sujets différents.
On va vous expliquer ce que c'est, bien sûr.
On va développer un peu tout ça.
Ouais.
On a le grand plaisir d'avoir avec nous deux invités pour en parler. Emmanuel Cellier, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel. Bonjour. Alors vous êtes le président de Verifrom.
Oui.
Voilà.
Toute jeune société créée fin 2014. Voilà. Et on est effectivement spécialisé sur la protection des marques vis-à-vis du phishing.
Voilà. Donc,
le hameçonnage.
Gros sujet. Juste à côté de vous, Emmanuel, Jean-François Poussard. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Jean-François,
bonjour.
Vous êtes directeur de Keep Alert Pro Domaine, au pluriel. Et alors vous, Jean-François, voilà, c'est vraiment le cybersquatting, notamment, hein, qui est l'un de vos grands sujets, la manière dont on squatte, dont on occupe des noms de domaine qui pourraient potentiellement appartenir à d'autres. Mais bon, c'est pris. Alors, juste pour comprendre, au fond, on a le sentiment légal, qu'aujourd'hui, le droit des marques a un peu progressé, c'est peu à petit peu renforcé, on va dire, sur Internet. Et donc, je lance la François Sorel Company. J'ai, parce que...
Avec un Y, hein,
avec
Company.
Un Company, bien sûr. Company. Et
c'est mieux.
Si jamais c'est pris, ces noms de domaine sont pris dans différents endroits, si j'ai bien déposé ma marque, a priori, j'ai pas de problème. Est-ce que c'est vrai, en partie? Est-ce que c'est un peu plus compliqué? Où on en est aujourd'hui sur ce sujet?
Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, aujourd'hui, techniquement, je peux déposer le nom de domaine GucciDiscount.org, par exemple, s'il est disponible. Par contre, d'un point de vue jurisprudence, Gucci peut m'attaquer pour le récupérer. Et il le récupérera de façon quasi systématique.
D'accord, donc le temps que je peux faire mon business, le temps que je passe un petit peu
entre les mailles du filet.
Entre les mailles du filet, mais le jour où Gucci se rend compte qu'il y a un discount Gucci, là...
Ouais. Il peut attaquer,
tout à fait.
Et mais malheureusement, ce phénomène que subissent les marques, donc c'est tous les secteurs d'activité, c'est pas uniquement les marques de luxe, hein, ça peut toucher aussi des PME, où on va avoir de la vente de contrefaçon, du phishing, parfois du contenu adulte aussi, qui peut être associé très préjudiciable pour les marques. Et donc, on a tous ce système qui existe clairement, et on a des moyens juridiques pour les récupérer. Par contre, ces procédures juridiques, la plus répandue, coûtent $1,500. Donc, parfois, le cybersquatteur intelligent, entre guillemets, va dire « Oh, bah tiens, Gucci ou Dolce-Gabbana.biz, je te le rends pour $1,000, ça te coûte moins cher que d'engager une procédure à $1,500.
Ils peuvent s'arrêter.
Ah oui, c'est-à-dire que non seulement ils font un business avec donc le nom en vendant des
soit du détournement de trafic, soit voilà. la vente de contrefaçon, mais oui. Leur espoir aussi, c'est de gagner de l'argent en revendant
d'accord.
Le nom.
D'accord. Ah oui, donc ils sont gagnants sur les deux domaines.
Ils sont gagnants.
C'est le cas de dire, c'est mauvais jeu de mots.
Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et on est dans un contexte en plus assez complexe, dans le sens où il y a plein de nouvelles extensions Internet qui viennent d'arriver.
Et oui.
Donc le terrain de jeu, en fait, des cybersquatteurs est beaucoup plus important.
Mais alors là, il y a une barrière à l'entrée quand même. Parce que par exemple, pour un point mobile, un point
alors en fait,
Paris, tout ça, enfin, il y a des...
Créer sa propre extension Internet, ça coûtait très cher, ça coûtait $185,000.
Voilà.
Donc là, il n'y a pas eu de cyber squatter, il n'y a personne d'autre que Gucci qui a demandé le point Gucci. Mmh. Par contre, maintenant, ces nouvelles extensions, point Paris, point Luxury, point Pizza, il y a vraiment tous les secteurs, point boutique, on peut enregistrer ce nom de domaine, et typiquement, il y a un cyber squatter qui va va enregistrer clarins.center. Clarins va attaquer pour récupérer ce nom de domaine. Mais ce terrain de jeu, il n'y avait que 300 extensions historiques depuis 30 ans. Là, il y en a 400 nouvelles qui sont arrivées l'année dernière. On en attend encore autant cette année. Donc le risque potentiel de cyber-squatting est très important, même si pour l'internaute moyen, un des éléments intéressants, c'est que ça ouvre quand même de nouveaux territoires numériques pour déposer son nom, par exemple, en point expert, point ninja ou point gourou, par exemple, alors que votre nom pouvait être pris auparavant en point com par un homonyme ou un point, par exemple.
Il y a des exemples aussi de marques qui ont plusieurs sens. Hein, vous, en préparant l'émission, vous me parliez des Charles Leclerc. Alors, je voyais pas pourquoi. Mais en fait, l'enseigne Leclerc est apparemment toujours en complication, on va dire, avec un amateur de Charles Leclerc. Quoi.
Voilà, les magasins Leclerc n'ont pas le nom de domaine Leclerc.fr. Leclerc.fr, ça appartient à un particulier qui a fait un site sur les Charles Leclerc. D'accord. Et parmi la jurisprudence, en fait, il y a un intérêt légitime, c'est un des critères. Et il y en a beaucoup comme ça. On rachète, nous aussi, pour des marques régulièrement des noms de domaine.
Longchamp, par exemple.
Ça peut être vraiment pour les noms courts avoir une double signification. La Ligue de football professionnelle, avant de s'appeler LFP, ça n'était pas la LFP. LFP.fr, ça appartenait à la Française des Plastiques, dont c'était le même acronyme. Donc du coup, la LFP, le foot, a dû faire un chèque de 70 000 euros pour récupérer son domaine.
Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge, en tout cas, on le comprend bien, Jean-François Toussard, donc directeur de Keep Alert Pro Domaine. Vous restez avec nous, Jean-François. On va s'intéresser à un autre cas d'école de vraiment ce qu'on peut appeler les casse-pieds du net, c'est-à-dire le phishing. Avec vous, Emmanuel Cellier, donc président de Verifrom, une jeune entreprise spécialisée sur le sujet. Aujourd'hui, ça représente quoi le phishing? On peut avoir quelques chiffres clés, parce que on a l'impression que c'est toujours extrêmement massif.
C'est effectivement très massif. En fait, ça concerne 3/4 des internautes, au moins, en tout cas.
Qui ont reçu à un moment donné de leur vie.
Qui, à un moment ou un autre, ont reçu effectivement.
Et qui ont cliqué aussi? Ou qui ont juste reçu?
Ils ont juste reçu. Bon. Par contre, on en a quand même 10% qui se sont fait avoir.
10%? C'est énorme, hein.
1 sur 10.
Quand on dit 10%. Ils se sont fait avoir, c'est-à-dire qu'ils ont cliqué, ou qu'ils ont cliqué et donné de l'info.
Ils ont cliqué et donné de l'info.
Ah oui, ça va loin.
Donc c'est là l'arnaque est réalisée.
Réalisée. Et 29%, disent-ils, ont failli se faire avoir.
D'accord.
Donc voilà, et probablement que ça va au-delà, puisque certains ont pu se faire avoir sans s'en rendre compte. Parce que, évidemment, à chaque fois, quand on pense au phishing, on pense à le vol de données bancaires, de données cartes bancaires, etc. etc. Mais le simple fait de pouvoir obtenir un mot de passe, par exemple, sur le compte client EDF, c'est déjà une chose intéressante. Parce
que d'entrée, bien sûr.
Il est vraisemblable que ce mot de passe, je puisse l'utiliser en tant que fraudeur. Sur d'autres systèmes, le compte de messagerie mail, par exemple, ou sur PayPal, ou d'autres services.
Oui, il y a tous les effets direct en fait, hein, qui peuvent être très nombreux.
Donc n'oubliez pas, jamais qu'un seul mot de passe.
Exactement.
D'accord, c'est important ça.
Ça c'est très très important.
Voilà.
Jamais un seul mot de passe, potentiellement le modifier, etc., etc. Mais voilà, mais sauf que les gens n'ont pas envie de se souvenir de plein de mots de passe, même s'il y a des services qui existent.
Oui. Dashlane notamment, qui est excellent.
Par exemple.
Oui.
Mais voilà, tout le monde n'est pas capable de comprendre toutes ces considérations techniques. Ouais. Tout le monde n'est pas informaticien en France, et ils ont beaucoup de mal à se dépatouiller de
tout ça. Ouais. Alors, est-ce que les applications mobiles, parce qu'on est quand même dans un monde évidemment de plus en plus internet mobile, on sait, plus la moitié du trafic mondial aujourd'hui du web se passe quand même par cette façon d'explorer les choses avec les applis mobiles, mobiles. Donc ça veut dire que on est déjà dans des environnements sécurisés, qu'il y a un peu moins de risques peut-être que le phishing arrive, ou c'est pas vrai?
Alors, si on prend le mobile en général, le risque est peut-être même encore plus fort sur le mobile, notamment au travers du navigateur ou du mail, parce qu'en fait, sur votre mobile, vous n'avez pas d'antivirus, vous n'avez pas d'anti-spam, vous ne pouvez pas regarder le lien qu'il y a derrière avant de cliquer, par exemple, vous êtes obligé de cliquer pour voir là où ça vous mène, etc. Donc en fait, finalement, ça amène plus de risques. Mmh. Alors, par contre, il y a effectivement les applications mobiles, donc ça c'est un autre usage du mobile, qui amène davantage de sécurité. Et puis, plus largement, le mobile a aussi un intérêt, c'est qu'on l'utilise de plus en plus pour ce qu'on appelle de l'authentification forte à double facteur, c'est-à-dire typiquement on va vous envoyer un mot de passe ou l'équivalent d'un mot de passe par SMS sur votre mobile qui vous permet de confirmer par exemple une commande ou un paiement sur le site web. Donc ça effectivement ça apporte une vraie sécurité et c'est d'ailleurs ce que nous on cherche à mettre en œuvre vis-à-vis du phishing.
Alors, je ne sais pas si Jean-François Poussard, vous me contredirez concernant un peu les pays qui sont malheureusement, pour triste raison, les meilleurs dans ces domaines-là. Je crois que en ce qui concerne le cybersquatting, il y a beaucoup d'Asiatiques.
Alors, si c'est toujours le pays où il y a le plus de cybersquatteurs, c'est les États-Unis en numéro un. Deuxième, c'est la Chine. Mais en fait, c'est la Chine où se concentre la partie contrefaçon. C'est-à-dire que quand on est sur un site qui vend de la contrefaçon sur Internet, la majorité, dans 70% des cas, le défendeur, le titulaire du nom de domaine est en Chine. Et on est sur une problématique qui est en ce moment en plus.
Et donc ça va plus loin, en fait.
Ça va plus loin. Et surtout, ces sites sont de plus en plus visibles. Aujourd'hui, vous tapez dans Google Lancel associé à Solde, vous allez avoir comme premier résultat le site officiel de Lancel. Le second résultat, si vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur un site qui vend de la contrefaçon. Et là, l'internaute moyen, ma mère, elle se trompe.
Ouais. Mais la police du net, alors là, pour le coup, elle peut vite sévir, non? Si police il y a,
mais en 2015, quand vous tapez Lancel Solde dans Google, d'accord, le deuxième résultat, google.fr, faites-le chez vous, vous verrez, c'est un site de contrefaçon.
Comment, il y a des petits conseils que vous pourriez nous donner à tous ceux qui nous écoutent pour repérer un vrai site d'un faux site?
Alors au niveau de la vente de contrefaçon, il y a des indicateurs. Le premier, c'est sûr que c'est le nom de domaine, mais malheureusement l'internaute moyen regarde peu.
Parce que la plupart du temps on est dans un moteur de recherche, donc
tout à fait. Voilà. Après c'est vrai que des certificats du type SSL, le HTTPS, c'est un indicateur quand même de confiance. Et puis surtout, alors ces sites sont très bien faits maintenant, ils reprennent les vrais visuels des boutiques officielles, mais c'est encore dans le Google Translate entre guillemets où les fautes d'orthographe sont très importantes dans l'écriture qu'on peut retrouver. Voilà, donc ma mère, l'internaute moyen, là-dessus, ne se trompe pas.
Après, il y a peut-être le bon sens de se dire un produit qui coûte 1000 euros sur un site, on le retrouve à 150 euros sur un autre site. Il y a peut-être aussi
sur un site qui n'est pas un site de confiance habituel, type vente privée ou etc. C'est clair que ça peut être quand même
la
puce à l'oreille. La majorité de ces sites de vente de contrefaçon, on est sur des prix barrés de façon importante, même s'il y a maintenant des contrefacteurs qui vendent les produits au même prix officiel, okay, avec juste 10 ou 15% de discount.
Ah oui.
Et là, l'internaute peut se tromper.
Et oui, parce qu'il se dit c'est crédible, c'est un prix qui est crédible, donc ça doit être du vrai.
C'est possible.
Oh là là. Pour être parfaitement complet, il y a aussi des internautes qui le font par connaissance de cause.
Ah oui,
bien sûr. C'est aussi possible. Ouais.
Concernant le phishing, il y a des pays plus forts que d'autres, entre guillemets.
Après, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Hein. On a effectivement pays de l'Est, Afrique, qui ciblent beaucoup le marché français.
Ouais.
Mais après, le phénomène se retrouve.
Et là aussi, il faut regarder en conseil, on voulait évoquer tout à l'heure, mais les fautes d'orthographe, généralement, dans de phishing sont assez nombreuses. Pas exclusivement.
Mais de moins en moins, malheureusement. Et c'est en fait le gros problème, c'est que les gens sont un peu désemparés pour arriver à discerner les vrais des faux emails. Quoi. Ils n'ont pas de niveau suffisant.
Bon. Merci messieurs en tout cas pour ces explications et ces quelques conseils. Merci. Emmanuel Cellier, donc président de Verifrome, et Jean-François Poussard, directeur de Keep Alert Pro Domaine au pluriel. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Et Jean, surveillez bien votre boîte aux lettres.
Oula, maintenant là je
Ah là vous êtes
je vais vraiment faire attention.
Au top.
Ouais.
Allez, on revient dans un instant. La suite de l'atelier numérique sur BFM Business dans une petite minute, direction l'Estonie pour notre World Tour entre autres.